France Culture, les matins d'été, Julie Gacon.
Nous avions déjà pris l'air de la mer en plein visage il y a 2 semaines avec Yann Kefelec et son dictionnaire amoureux de la mer. Nous avons regardé ensemble cette bergère d'azur infinie, nous avons pris des canottes, nous avons godillé, rapporté des salabardes de sardines. Nous avons écouté le marin dialoguer avec l'univers par-dessus les flots. L'homme et la mer, la femme et la mer, une lutte contre soi, nous disait Yann Kefelec. Ajoutons ce matin une lutte contre tout ce qui la vide de sa force. Bonjour Claire Nouvian.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes la fondatrice et la présidente de l'association Bloom, créée en 2005, qui entend créer un pacte durable entre l'homme et la mer, mettre fin aux méthodes de pêche destructrices, écrivez-vous sur votre site, protéger le milieu marin et en préserver la résilience. Donc merci d'être venu nous voir en rentrant de quelque part sur mer. Dans quel océan avez-vous passé les dernières semaines ?
On était dans le cercle polaire, en fait, dans le grand nord de la Norvège.
Et qu'est-ce qui s'y est passé ? Vous avez essuyé, m'avez-vous dit tout à l'heure, une tempête de nuit?
Oui, en fait, on est rentré par une mer, on a essayé d'éviter une tempête, mais qui arrivait un peu plus tôt que prévu. Et du coup, ça a été un petit peu une navigation de nuit plus difficile que ce à quoi on s'attendait. Et voilà, on a pris des paquets d'eau, des vagues sur la tête, en fait, mais en quart de nuit, dans une mer qui est quand même à 8, 9 degrés, avec une mer très formée. Et ben, on pense, d'abord, on se bat, en fait, on compte plus ni les minutes, ni on regarde, enfin, on se dit, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Et puis, on pense aux coureurs au large, quand même, enfin, avec un immense respect, parce qu'on se rend compte qu'un homme à la mer, c'est un homme mort, hein, dans ces conditions, que les choses soient bien claires. De nuit, dans une mer froide, démontée, c'est impossible, ne serait-ce que de repérer, et encore moins de récupérer, même de faire la manœuvre, même si on garde un contact visuel, ce qui est littéralement impossible. Donc, vraiment grand respect. Vous savez, quand on est dans la bataille, contre les éléments, on est seul, ça glisse, voilà, même si on a attaché une ligne de vie, il faut se déplacer, il faut la détacher, un accident est vite survenu. Donc voilà, respect pour tous ces coureurs.
C'est pour ça qu'Isabelle Autissier dit toujours qu'elle ne lutte pas contre la mer, elle lutte avec, sinon c'est peine perdue. C'est Edgar Allan Poe, dans sa nouvelle manuscrit trouvée dans une bouteille, qui écrit « Nous fûmes enveloppés d'une nuit éternelle que ne tempérait même pas l'éclat phosphorique de la mer. Chaque minute menaçait d'être la dernière. La houle surpassait tout ce que j'avais imaginé comme possible. Autour de nous, tout n'était qu'horreur, épaisse obscurité, un noir désert d'ébène liquide. » C'est une tempête de nuit, ça.
Oui, c'est ça, c'est mieux dit. C'est pas tout à fait les mots aussi fleuris qui nous viennent à l'esprit, c'est plutôt... Il faut sauver sa peau. Voilà, il faut sauver sa peau, il faut essayer de pas passer à l'eau. Et puis voilà. Après, c'est rien par rapport à ce qu'ils vivent.
Bon, et 2 jours, alors, est-ce que vous avez, Claire Nouvian, vu des poissons? Des poissons de quel genre on croise?
Alors, quels sont les poissons? C'était vraiment en effet une expérience, parce que bon, ma petite vie n'a aucun intérêt, mais là, l'expérience d'aller en Norvège, c'est-à-dire un pays qui a refusé de rentrer dans l'Union européenne pour justement préserver son économie de la pêche, qui est une économie majeure pour ce pays du Nord, qui est très très riche en eau poissonneuse. On a mis une ligne à la mer, ça m'était jamais arrivé de ma vie. Au bout de 30 secondes, c'est presque vexant, les poissons se ruent sur les hameçons. On se dit, mais c'est pas possible, laissez-nous au moins la dignité de se battre un petit peu, d'attendre. Non, ils sont là, c'est des cabillauds, des aigles fins, des merlans, des maquereaux, en veux-tu, en voilà. C'est complètement, cette abondance est sidérante. C'est un petit peu un retour sur, comme un flashback de ce que devait être, en effet, l'océan mondial, il y a quelques décennies, avant qu'une machine de guerre se déploie contre ses ressources abondantes. Il y avait cette générosité, en effet, de la nature. Et on se dit, cette immense abondance de ressources, cette variété de poissons, c'est possible, donc, puisque la Norvège a compris qu'il fallait pas rentrer dans la politique commune de la pêche et donc pas dans l'Europe pour l'éviter. La Norvège a mis en place des mesures de gestion très strictes de ses capacités de flotte, de ce que les pêcheurs pouvaient retirer de la mer. Donc il y a une gestion assez exemplaire, il faut dire. Et voilà, à côté de ça, forcément, du coup, on a une vie marine très riche. On a des mammifères marins, on a croisé... des phoques, des orques partout autour du bateau, des cachalots, etc. Donc c'est vraiment comme un retour à la terre promise, en fait. C'était une expérience assez émouvante et assez pleine d'espoir, moi qui n'en ai pas beaucoup. C'est vrai, je me suis dit, c'est donc possible. On peut retourner en arrière, puisque la preuve, c'est qu'un pays voisin du nôtre, de notre Union européenne, est capable de le faire.
Donc votre adversaire principal, au-delà des gros bateaux de pêche industriels dont nous allons parler, et des hommes qui sont dessus, votre adversaire principal, c'est l'Europe, Claire Nouvian.
C'est l'Europe, enfin disons que c'est l'organisation des institutions politiques. L'Europe est vraiment antidémocratique, est devenue vraiment un pied de nez à la démocratie. On parle beaucoup, et plus on en parle, moins on le fait. En réalité, ce sont des structures de décision qui sont très opaques, qui sont dans les mains de quelques-uns, d'une espèce d'oligarchie dominante avec des lobbies puissants industriels. Tout cela se passe avec une espèce avec des simagrées de transparence qui n'existent absolument pas. Et c'est cette structure de décision qu'on va retrouver quand même au niveau des États membres, hein, puisque maintenant, on voit bien que le pouvoir en France se déroule à peu près selon les mêmes codes. Et en fait, il faut inventer la démocratie. On en est vraiment là et il y a une urgence à faire cela.
Donc vous vous battez, vous, au quotidien et depuis de nombreuses années pour la protection des océans et la survie des espèces de poissons. Est-ce que vous êtes l'adversaire de tous les pêcheurs, pêche hauturière et pêche côtière sans distinction, comme un vegan l'est de tous ceux qui produisent de la viande indépendamment des conditions de production ?
Non, en fait, on est même l'ennemi d'aucun pêcheur d'un point de vue théorique parce que on estime, contrairement à certains, que une ressource vivante, tout à fait comestible, même franchement délicieuse pour certaines espèces de poissons.
Vous en mangez ?
Oui, on en mange, on a mangé beaucoup en Norvège, doit être récoltée, puisqu'il y a un enjeu évidemment de structuration des économies grâce à cette ressource gratuite, d'une part, et puis évidemment un enjeu alimentaire et donc de sécurité alimentaire. Alors l'enjeu de sécurité alimentaire dans les pays du Nord, il est plus très clair. Hein. Ça devient pour nous, c'est un luxe gustatif et gastronomique, alors que dans les pays du Sud, c'est un vrai enjeu de sécurité alimentaire. Donc la question se pose en effet de savoir si on est capable d'inventer une économie de la pêche qui soit durable tant pour l'océan, le milieu marin, que pour l'homme. Aujourd'hui, on a fait le choix d'être dans ce qu'on appelle la tragédie des communs, c'est-à-dire que la ressource étant gratuite, ça génère une course à celui qui va attraper le poisson en premier, donc ça génère une tragédie, de même façon que les pâturages qui étaient ouverts à tous générait trop de bétail et trop de cheptel qui se retrouvait sur un pâturage, qui se retrouvait très abîmé. Et en fait, quand on voit une ressource commune en train de décliner, il n'y a pas de gestion collective, on va dire, mûre et réfléchie, qui va dire halte au surpâturage, halte à la surpêche. C'est plutôt, attention, c'est en train de se dégrader, donc je veux faire partie de cette course au dernier poisson. Et cette tragédie commune, on n'a pas réussi à l'éviter en Europe. On est en train d'essayer de ramer, mais à contre-courant. Et dans cette dernière lutte au dernier poisson de fait dans les eaux européennes et ailleurs, dans le monde, la question se pose de savoir qui va avoir accès à cette dernière ressource, qui va avoir accès au dernier poisson. Et dans ce jeu-là, ce sont les industriels qui gagnent, évidemment, puisqu'ils sont représentés politiquement de façon très efficace. Ils ont parti liés avec le politique. Enfin, il n'y a plus moyen de défaire cette bête hybride qui est devenue donc cette alliance des lobbies industriels, des grands industriels, que ce soit de la pêche ou d'autres industries, et des structures de pouvoir existantes. Donc l'enjeu, forcément, on est plus du côté des pêcheurs artisans parce qu'il y a une urgence sociale, une urgence réelle. Quand on va sur les ports de pêche français ou européens, on la voit, on la vit, elle est troublante, elle est poignante. De fait, les meilleures pratiques de pêche sont en train de disparaître. Les meilleurs métiers sont en train de disparaître.
La rade de Brest, par exemple, il y a encore 10 ans, il y avait 90 bateaux de pêche dans la rade de Brest. Aujourd'hui, s'ils sont 40, c'est le maximum, Claire Nouvian. Mais ceci dit, les pêcheurs industriels, ceux qui pratiquent la pêche hauturière, on peut aussi se dire qu'ils savent que leur survie est de tout. Vous parlez de course au dernier poisson, mais ils savent que le jour où il n'y aura plus de poissons, ils seront morts. Donc, ils mettent en place, entre guillemets, des bonnes pratiques. C'est-à-dire, par exemple, ils demandent depuis longtemps que le bar fasse l'objet de quotas. On voit ici et là certaines espèces qui réapparaissent.
Alors, le bar, c'est un bon exemple, c'est un bon exemple parce que justement, la gestion du bar en France, c'est que les métiers d'hameçon, les métiers de ligne, etc., donc tous les pêcheurs qui vont pêcher le bar de façon vraiment très respectueuse et de l'environnement et du poisson et d'avoir un poisson d'excellente qualité, obtiennent très très peu de quotas par rapport aux industriels qui ont développé du chalut pélagique, donc des énormes sont des filets, contrairement à un pêcheur qui va vraiment avec une pêche à la ligne comme on s'imagine quand on fait un dessin d'enfant. Là, on est face à des bateaux quand même industriels ou semi-industriels qui déploient des grands filets et qui raflent toute la population de bars en quelques prises. Donc on est typiquement dans une question de gestion publique. Puisque ce poisson appartient à tout le monde ou n'appartient à personne, mais en tout cas il faut choisir son camp, il n'appartient certainement pas aux pêcheurs, il faut poser la question de savoir s'il y a X ressources, s'il y a 1000 tonnes de poissons à pêcher, est-ce qu'on a envie d'avoir un pêcheur industriel qui rafle tout? Ou est-ce qu'on préfère avoir 500 ligneurs de bar qui vont structurer le territoire?
Mais ils les demandent, les pêcheurs industriels, les quotas. En tout cas, quand on écoute, par exemple, le représentant du comité des pêches de Bretagne, qui défend les intérêts de tous et pas seulement de la pêche côtière, mais en tout cas, il dit, nous, on les demande, les quotas de bar, parce qu'on sait que sinon, on est mort.
Oui, enfin, alors si on, je sais pas de qui on parle, mais j'en ai en tête. Si on parle de lui, je peux vous dire que c'est un menteur pathologique.
Bon, il est pas là pour se défendre.
Voilà. Non, mais on est dans une représentation de la pêche qui est justement problématique, puisqu'on est avec des représentants de la pêche qui tiennent un discours, y compris à la radio. J'ai eu des confrontations assez violentes avec des représentants de la pêche qui, avant l'antenne, disent des choses, à l'antenne, disent le contraire et sortent du studio et vous disent « Ah ben non, je suis obligée parce que sinon je me fais taper dessus par les industriels ». Donc non, ils ne représentent pas toute la pêche française. Et c'est tout à fait le problème, c'est qu'il y a une appropriation par les industriels des organes de représentation au niveau national.
Encore une fois, en France, il y a de l'autorégulation qui s'est mise en place. En Bretagne, dans la baie de Saint-Brieuc, par exemple, si vous regardez la pêche à la Saint-Jacques, les pêcheurs ont établi leurs propres règles. Alors c'est pour la pêche côtière. Hein. Pendant les dates de pêche définies en amont, les bateaux ont un permis de sortie de 45 minutes. Ils sont suivis par un hélicoptère, un Zodiac. Ils peuvent rapporter 300 kilos comme plus d'une tonne selon que c'est un bon jour ou pas.
En tout cas, ça c'est typiquement en effet, ouais. C'est comme la légine australe, donc dans les eaux antarctiques et australes de la France, donc autour, les bases sont l'île de la Réunion. Là on se retrouve en fait dans une gestion exemplaire parce que la ressource vaut très cher et que les acteurs ont un intérêt vraiment économique précis de travailler avec les pouvoirs publics pour mettre en place des politiques de gestion qui sont efficaces. Par exemple, sur la légine australe, qui est un poisson qui vaut vraiment très très cher, qui vaut autant que le thon rouge, on a quelques bateaux, c'est très réglementé, et donc on est dans une gestion exemplaire par l'État français des droits de pêche. Sur des espèces donc plus dispersées, plus variées, c'est beaucoup moins facile. Ça pourrait être fait, mais c'est malheureusement pas du tout le cas. Mais c'est vrai que vous avez cité des bons exemples, et je rajoute la légine, qui mérite en effet une mention spéciale par les autorités, donc ce qu'on appelle les TAF, les territoires des terres australes et antarctiques françaises. Une gestion vraiment très bonne de la pêche.
Et la presse locale se fait parfois l'écho, ici, de la réapparition de la sardine, là, de celle du merlu, de la civelle, et même du thon rouge qu'on disait menacé de disparition. Il y a parfois des bonnes nouvelles.
Alors parfois des bonnes nouvelles. En effet, le corollaire obligatoire de ces mesures de gestion, c'est que la ressource vaille de l'argent. C'est-à-dire que quand on a une légine ou une coquille Saint-Jacques qui valent beaucoup d'argent, ça mérite aux yeux des pouvoirs publics de déployer les moyens de contrôle, de gestion. Vous voyez, comme vous disiez, c'est très encadré. C'est même ça nécessite le déploiement de forces de l'ordre et d'observateurs. Donc tout ça, c'est quand même payé sur l'argent public. Donc ça mérite aux yeux des pouvoirs publics, en effet, quand la ressource rapporte beaucoup d'argent. Donc on protège une économie. La plupart du temps, en fait, c'est pas comme ça qu'on envisage les choses. Et donc on ne déploie pas les moyens de contrôle. Or, en effet, un pêcheur en mer, c'est pas un homme moins bon ou meilleur qu'un autre. S'il n'y a pas de contrôle, il est tenté de contourner certaines réglementations qui, de fait, lui paraissent complètement absurdes une fois qu'il est en mer. Donc la triche est très très importante dans le milieu de la pêche, qui est souvent comparée à une mafia parce que c'est d'une opacité totale, même si en effet on va avoir par moment les mesures de gestion fonctionnent. Enfin, je veux dire, la preuve, c'est la Norvège quand même. Quand on met en place de bonnes politiques de gestion, on se retrouve avec du poisson. Donc il est possible de remonter la pente, c'est ce qu'on devrait tous viser. Pour l'instant, on n'en est pas vraiment là, même si pour la ressource, ça peut, sur certains poissons, très peu. Hein, on est à moins de 10% de pêche durable en Europe quand même. Donc on est quand même très 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 loin du compte. Mais il est possible de remonter la pente. La question qui se pose, c'est donc à quel pêcheur on va laisser l'accès à cette ressource? Est-ce qu'on préserve aussi les emplois? Est-ce qu'on préserve une pêche qui n'est pas subventionnée? Est-ce qu'on préserve des pratiques de pêche qui sont respectueuses de l'environnement? Ou est-ce qu'on accepte de détruire le milieu quand on pêche? Et donc la question après, c'est la technique de pêche et quels hommes en vivent.
Et oui, qu'est-ce qu'on imagine pour ces pêcheurs qui, par exemple, travaillent dans le port de Boulogne-sur-Mer, premier port de pêche français où sont débarquées 30 000 tonnes de poissons par an? Je crois que le premier port français, ça reste Rungis quand même.
Oui, en fait, j'allais dire, Boulogne est un port excessivement important parce qu'en fait, c'est aussi le lieu d'arrivée de beaucoup d'importations et de traitement des importations. En réalité, on consomme très très peu, même pas, on consomme 15% de la consommation de poisson qui est la consommation française, vous voyez. On dépend à 85% d'importation pour notre consommation de poisson. Donc la pêche française, elle est importante, elle devrait l'être plus, on pourrait capturer plus, si on gérait mieux les ressources, on en aurait plus à pêcher. Et on pourrait même avoir plus de pêcheurs. Donc ça, ça a vraiment été modélisé par des économistes, c'est absolument évident. On est allé tellement loin dans la surexploitation de la ressource, en faisant les mauvais choix publics par rapport donc à ces métiers qu'on laisse disparaître. Du coup, dire que le secteur de la pêche est en crise, c'est un euphémisme en fait. On est vraiment face à une crise sociale sévère et qui est forcément liée à une crise de la ressource. Et donc aujourd'hui, même si on voit des prémices de rétablissement de la ressource, malheureusement, on voit aussi que dans cette tension qui est très claire sur les ressources naturelles, ce sont les industriels qui gagnent.
Aujourd'hui, 20 pays sont responsables de 80% des prises. Je crois que le premier pays producteur de pêche en mer, c'est la Chine. Claire Nouvian, les bateaux qui pratiquent la pêche industrielle en haute mer font l'objet d'un suivi. Et c'est ainsi qu'on sait qu'au cours des dernières années, les distances parcourues n'ont pas cessé d'augmenter, alors que les tonnages de capture, eux, baissent. Donc on va de plus en plus loin, mais pour des pêches de moins en moins miraculeuses. La pêche industrielle va peut-être finir par mourir de sa belle mort si elle n'est plus rentable.
D'abord, c'est déjà le cas, mais en général, on est face à des enjeux capitalistes très flexibles qui permettent un redéploiement des unités de flotte de façon très mobile et élastique. Donc, on se retrouve avec, en effet, une triple expansion géographique de la pêche. Donc, une triple expansion et géographique. On va de plus en plus loin pêcher le poisson. On va de plus en plus profondément pêcher le poisson. Donc, c'est une expansion aussi bathymétrique. On va de plus en plus profondément dans les océans, et on va vers une expansion, on va dire, spécifique, c'est-à-dire qu'on change d'espèce. Et c'est le fait que nos flottes, donc, vont de plus en plus loin, de plus en plus profondément, chercher en permanence de nouvelles espèces, qui est masqué à nos yeux de consommateurs. Parce que nous, on voit toujours des étals remplis de poissons. On ne se rend pas compte que les poissons, qu'un cabillaud qui pouvait faire 1m50 il y a encore quelques décennies, aujourd'hui, quand il fait 40 cm, on est vraiment heureux, ou 50 cm, on se dit, mais quelle belle prise!
Pourquoi ils ont rapetissé les cabillauds?
Ah non, ils n'ont pas rapetissé. On a juste, on a surexploité le stock de façon tellement évidemment spectaculaire. Vous voyez la crise du cabillaud au Canada en 92, l'effondrement du jour au lendemain de tout un secteur parce que cette énorme ressource qui était le poisson dominant dans l'Atlantique Nord a disparu du fait de notre surpêche. Donc on a attrapé tous les poissons, les gros reproducteurs et ensuite ce qu'il restait. Aujourd'hui, il reste des animaux qui sont vraiment de petite taille, qui sont toujours en surexploitation. Donc voilà, on a changé d'espèce et on nous présente d'autres espèces qu'hier on rejetait. Et c'est en permanence ce rabaissement, on va dire, des standards gustatifs en réalité, puisqu'on va pêcher du poisson de moins en moins belle qualité au niveau de la chair, mais ou alors de plus en plus loin. Et donc l'expansion se fait aussi dans les eaux encore poissonneuses des pays en général les plus pauvres, donc les pays du Sud, qui par ailleurs se retrouvent affectés par le changement climatique avec une ressource. Donc les poissons migrent quand même vers les pôles, vers des eaux froides. Enfin, ils cherchent à garder la même température, la température à laquelle ils sont physiologiquement adaptés. Et donc les projections, c'est qu'ils sont en train de quitter, en gros, la ceinture de l'équateur pour aller de plus en plus vers les pôles. Ce qui fait qu'on est en train d'appauvrir, nous, par notre surcapacité de pêche industrielle qu'on envoie et qu'on exporte dans les pays du Sud, qui sont eux-mêmes déjà en train de vivre un cycle naturel qui les épuise.
Claire Nouvian, votre combat du moment, ils sont nombreux, mais c'est de faire interdire la pêche électrique, dont il faut rappeler en quelques mots comment elle procède.
Oui, mais alors ce sont des chalutiers, donc les chalutiers sont des énormes filets qui raclent le fond, avec des chaînes autrefois. Donc aujourd'hui, parfois ils enlèvent les chaînes, parfois ils conservent les chaînes, mais de toute façon ces chaînes, dans le meilleur des cas, ont été remplacées par des câbles qui envoient l'électricité dans le sédiment. Cette électricité, évidemment, c'est une électrocution de la vie marine qui n'épargne personne puisque le courant électrique n'est évidemment pas du tout sélectif. Et on se retrouve avec une pêche qui va faire sortir les grands poissons du sédiment, par exemple les poissons plats, les sols, etc., les plis qui vivent enfouis dans le sable, vont sortir du sédiment comme du pop-corn parce que c'est radical. Mais évidemment, on affecte tous les petits poissons, les bébés, les juvéniles, les œufs, avec un ravage écosystémique. C'est-à-dire que là, on a la capacité technologique de vider l'océan et de couper en fait la branche sur laquelle on est assis pour de bon.
Donc là, on parle bien de la pêche électrique pour pêcher à grande échelle et non pas cette pêche électrique qu'on voit dans la presse locale organisée un peu partout, dans différents cours d'eau, l'Ardoux, le Vert, l'Orne, pour recenser les poissons et qui paraît à côté de ça une douce poésie. La pêche n'est pas la seule activité humaine qui a un impact sur les fonds marins. Vous restez avec nous, Claire Nouvian. On en parle juste après le journal de 8h.